Lorsqu'Annick Cagny repense au jour de la disparition de sa fille, elle ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir.
Elle quittait le bâtiment, elle passait là avec sa copine, elle faisait là pour faire le chemin pour aller au lycée Jean Villard. Tous les jours, je faisais. Je faisais signe à passer, je faisais signe à la fenêtre. Mais là, bon, ben, puis, comme un fait exprès, ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Puis peut-être qu'en faisant le coucou, j'aurais pu regarder le chemin qu'elle prenait.
Il y a des destins qui m'ont bouleversée. Des destins et des visages. Je n'oublierai jamais le sourire de Magali, une jeune femme qui n'aura jamais 20 ans. Magali est morte en 2001, assassinée. Depuis, son père vit un cauchemar. Et puis il y a Karine, elle aussi âgée de 19 ans, elle aussi assassinée. L'histoire de ces deux jeunes filles me fait m'interroger. Comment vit-on lorsqu'on traverse la pire des épreuves ? Comment surmonte-t-on la mort d'un enfant ?
Je m'appelle Éric Bertrand, je suis le papa de Magali Paar, assassinée le 26 mars 2001.
Je suis Annick, je suis la maman de Karine Leroy, qui a été assassinée à Monceau-les-Maux.
Annick, Éric, une mère et un père pour qui rien ne sera plus jamais comme avant. Un jour, leurs filles ont été retrouvées mortes, assassinées. Depuis ce drame, ces deux parents tentent de continuer à vivre avec une idée en tête. Retrouver un jour l'assassin de leur enfant. Éric Bertrand a 52 ans. Il est chauffeur routier. Un métier éprouvant mais qui le passionne.
On te remercie. Toute bonne journée, bon week-end aussi, hein. Ciao.
Chaque jour, il passe de longues heures seul dans son camion. Sur ses photos, c'est sa fille Magali. Où qu'il aille, elle ne le quitte jamais. Il y a 11 ans, elle a été retrouvée morte, assassinée. Elle avait 19 ans. Ce jour-là, Éric Bertrand était sur la route. Il ne se l'est jamais pardonné.
Je pense que sentiment de culpabilité, tu l'as automatiquement. Tu te dis que tu n'as pas pu protéger ton enfant. Tu n'étais pas là quand elle avait besoin de toi. Est-ce que c'est moi le coupable? Est-ce que c'est l'assassin? Voilà. Moi, j'étais coupable de ne pas être là.
Aujourd'hui, Éric Bertrand est rongé par ces questions. Qui a tué sa fille? Et surtout, pourquoi? Tout bascule le lundi 26 mars 2001. Ce jour-là, c'est une semaine tout à fait ordinaire qui commence pour le chauffeur routier.
Je me suis levé pour aller au travail, j'ai pris mon camion et puis j'ai fait ma journée comme une autre journée. C'était une journée commune pour moi.
En début de soirée, Éric Bertrand reçoit un coup de fil. À l'autre bout du téléphone, c'est Geoffrey, son gendre. Ce dernier est inquiet. Magali n'est pas rentrée du travail.
Je rentre à la maison de mon travail, Geoffrey m'appelle, il m'explique que Magali a disparu. J'essaye d'appeler Magali à plusieurs reprises, je lui laisse des messages. Ce que tu peux faire pour essayer de comprendre.
Où est passée Magali? Pour Marie, la nouvelle femme d'Éric, à ce moment-là, il y a forcément une explication.
Peut-être qu'elle a fugué, elle est partie avec quelqu'un d'autre. On se raccroche quelque part à ça parce qu'on ne veut pas penser à autre chose.
Seulement, les jours passent et Magali ne réapparaît pas. Jeudi 29 mars 2001. Cela fait maintenant 3 jours qu'Éric Bertrand n'a pas eu de nouvelles de sa fille. Régulièrement, il appelle en vain la gendarmerie pour avoir des nouvelles. Mais ce jour-là, au téléphone, on lui annonce le pire.
2 ou 3 jours après, j'appelle la police qui, eux, m'annonce comme ça qu'ils ont retrouvé Magali, morte, brûlée. De but en blanc, on te fout ça à la gueule. Il y a tout qui s'arrête. On vient pas te le dire à la maison en prenant des gants ou quoi que ce soit. On te fout ça à la gueule. Et si j'avais pas appelé, moi, je sais pas quand est-ce qu'ils m'auraient averti. parce qu'ils ne m'ont pas appelé.
C'est dans un bois, à quelques kilomètres seulement de son domicile, qu'a été retrouvé le cadavre de Magali. Il est en grande partie calciné.
En ce qui concerne le corps de Magali, en vrai, je ne l'ai jamais vu. On m'a déconseillé de le voir parce que c'était vraiment pas la dernière image à garder de ma fille. J'ai vu des photos. C'est pas comme si tu vois le corps vraiment, je pense. Mais c'est vrai que c'est très dur. C'est des photos très très dures à voir.
Alain Thureau, vous avez été gendarme pendant 32 ans. Vous avez vous-même été amené à enquêter sur des assassinats d'enfants. J'imagine que ça doit être très difficile d'annoncer à un parent que son enfant a été assassiné.
Effectivement, c'est extrêmement difficile parce que, en ce qui me concerne, je crois que c'est la majorité des cas, nous sommes tous parents. Donc lorsqu'un enfant disparaît et qu'on le retrouve assassiné, c'est absolument horrible. Et c'est très très difficile vis-à-vis de la famille de pouvoir leur annoncer. Ce qu'il faut, à mon sens, éviter, c'est de donner des informations qui, éventuellement, les feraient se culpabiliser. Vous pensez que bien que pour un parent, à partir de l'instant, enfin pour le cas que j'ai eu à connaître, moi, une enfant scout qui disparaît, pour les parents, il y a toujours « mais pourquoi je l'ai envoyé là-bas ? Pourquoi je n'ai pas fait ci ? Pourquoi je n'ai pas fait ça ?» Donc un tas de questions qui se posent et qui tentent à les faire culpabiliser. Donc c'est extrêmement, extrêmement difficile, quoi.
Éric Bertrand ignore toujours qui a tué sa fille Magali. À cet instant, les gendarmes pensent encore que retrouver l'assassin n'est qu'une question de jours. Ils se trompent. Aujourd'hui, comme chaque semaine, Annick Cagnier se rend à la cathédrale de Meaux.
Quand je rentre dans la cathédrale, je me sens bien. Là, c'est vraiment extra. Je me sens une autre femme. On dirait que je suis ailleurs, je suis bien.
Dans ce havre de paix, Annick vient se recueillir, prier et déposer un cierge à la mémoire de sa fille.
Une pour Karine, une pour papa et mon frère, Jésus-Christ, maman et tout le monde, et pour les apôtres qui sont avec nous, et pour tout le monde, quoi.
La foi. C'est ce qui a permis à Annick Cagnier de surmonter la plus terrible des épreuves, la mort tragique de sa fille Karine, il y a 18 ans. Retour en 1994, le 9 juin. À l'époque, Karine Leroy a 19 ans. Elle vit avec sa sœur jumelle Nathalie, chez leur père. Ce matin-là, Karine quitte l'appartement pour se rendre au lycée Jean Villard. À midi, elle est supposée rentrer pour déjeuner, mais elle ne revient pas. Son père est inquiet. Il appelle Annick Cagnier qui vit dans une tour voisine.
Comme son père ne la voyait pas revenir pour déjeuner, il dit, mais elle n'est pas là. Puis alors après, il dit, elle est là, Karine. Ben, je dis, non, elle n'est pas là. Ben, je dis, elle n'est pas chez toi. Ben, elle dit, non, elle n'est pas là. Là, on commençait à s'inquiéter quand même à partir de 14-15 heures, si je me souviens bien. Là, il y a un problème.
Inquiète, Annick Cagnier décide d'appeler le lycée Jean Villard. Au téléphone, un responsable de l'établissement lui répond que personne n'a vu sa fille de la journée. Autrement dit, Karine a disparu le matin, en partant de chez elle.
Bon, bah, c'est là que Karine elle venait au lycée Jean Villard. Et puis c'est là qu'elle a été scolarisée. Puis alors, le 9 juin 1994, elle n'est jamais arrivée. Parce qu'elle était partie de chez son père. Et puis en fin de compte, elle n'a jamais arrivé au lycée Jean Villard.
Annick Cagnier parcourt alors les environs pour tenter de retrouver la trace de sa fille. Dans un premier temps, les habitants du quartier se veulent rassurants.
C'est là que j'ai commencé à prendre une photo pour aller dans le bâtiment, dans Meaux, un peu partout. Elle m'a dit, mais si on l'a vu, votre fille, mais si on l'a vu.
Mais rapidement, Annick comprend. Ce n'est pas Karine que ces gens ont vue, mais sa sœur jumelle, Nathalie. Karine, elle, reste introuvable. Le soir, la famille de la jeune femme décide de se rendre à la gendarmerie.
C'est là qu'on explique la situation, que donc elle n'était pas arrivée au lycée Jean Villard. Oh, me dit, vous inquiétez pas, elle a fait une fugue. Mais c'est des choses qui arrivent.
Comme Karine Leroy est majeure, les gendarmes pensent en toute logique à une fugue. Ils décident d'attendre 48 heures avant de réagir.
Ma fille, elle a 19 ans et c'est pas une fugue. Et non, que je connaissant ma fille, je suis sûre qu'il y avait quelque chose. Je dis, vous ne vous rendez pas compte, le temps d'attendre 48 heures, on peut la tuer au moins 1000 fois.
Deux jours passent. La disparition de Karine Leroy devient de plus en plus inquiétante. Une fois le délai de 48 heures terminé, les recherches peuvent commencer.
Au bout de 48 heures, bien sûr, comme elle n'était toujours pas là, là, ils ont quand même bougé. Ils ont fait venir un chien pour renifler, je ne sais pas quoi, là. Ils ont commencé à interviewer tous les locataires.
Les premières recherches de la gendarmerie s'avèrent infructueuses. L'hypothèse de la fugue devient de moins en moins crédible. La famille de Karine commence alors à craindre le pire.
Tant qu'on ne savait pas où elle était, on ne vit plus. C'est les nerfs, c'est les pleurs. Après, on se dit, ça y est, on l'a tuée, elle est morte. On s'imagine déjà tout de suite.
Mais il faut continuer à vivre, notamment pour Nathalie, la sœur de Karine. Car une date importante arrive le 19 juin, jour de l'anniversaire des deux jumelles. Comme le prouvent ces images datant de quelques années auparavant, ce moment a toujours été important pour la famille. Mais ce jour-là, le cœur n'y est pas.
On voulait faire donc l'anniversaire de leurs 20 ans. Bon, ben, donc on a fait l'anniversaire Nathalie, mais c'est vrai qu'il n'y avait qu'un seul gâteau, il n'y avait rien tout ça, donc c'était triste. Bon, ben, pour Nathalie, on avait ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'il manquait, quelque chose. Quoi. Il manquait un deuxième gâteau, il manquait tout, quoi. On se regardait toutes les deux, puis on pleurait.
Les jours passent, sans nouvelles de Karine. Jusqu'au 12 juillet. Ce jour-là, Annick est convoquée à la gendarmerie.
Je reçois un coup de téléphone ici. On me dit, Madame Leroy, nous avons une lettre à vous remettre. Est-ce que vous pouvez venir à la gendarmerie le chercher? Et dans ma tête, je me dis, oh là, c'est mauvais. On arrive en bas dans le hall. Bon, ils m'escortent jusqu'au deuxième étage, là-haut. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont posé des questions. À ce moment-là, donc, il dit, vous savez, on a retrouvé votre fille. Ben, je dis, elle est morte. Ils me disent, oui, je suis tombée.
Annick Cagnier vient d'apprendre la plus terrible des nouvelles. Sa fille est morte.
Frédéric Malon, vous êtes commissaire divisionnaire. Vous dirigez l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. D'une manière globale, en quoi une enquête sur la mort d'un enfant est particulière ?
Disons, l'enquête criminelle sur la mort d'un enfant sont toujours particulières parce qu'évidemment, il y a un côté émotionnel fort lié au fait que ce soit un enfant qui était assassiné. Ce sont des enquêtes qui, évidemment, sont prioritaires parmi toutes les affaires que nous traitons au sein de la police judiciaire. Et ce sont des enquêtes qui, évidemment, monopolisent le maximum de moyens pour essayer de très rapidement identifier le ou les auteurs et les arrêter.
Et humainement, quand on est policier, est-ce qu'on arrive à garder du recul ?
Disons que parmi les policiers, il y a forcément des pères de famille qui peuvent s'identifier un peu aux victimes, et aux familles de la victime en tout cas. Notre rôle à nous, c'est justement de garder le recul, de rester technique, de rester professionnel. C'est pas toujours facile, mais c'est un effort qu'on doit faire pour ne pas partir non plus dans des travers trop empathiques ou trop émotionnels.
Le corps de Karine a été retrouvé à Monceau-les-Maux, une petite commune située à quelques kilomètres de Meaux. Deux promeneurs l'ont découvert à l'orée d'un bois. Une question va alors peu à peu obséder Annick Cagnier. Pourquoi un tel crime ? Quelques jours après la découverte du corps de Magali Parr, les recherches pour retrouver son assassin commencent. Au départ, la gendarmerie se veut rassurante avec Éric Bertrand. Les preuves et les indices retrouvés sur le lieu du crime laissent à penser que le meurtrier sera vite retrouvé. Georges Rimondi est l'avocat du père de Magali.
Lorsque l'enquête va être ouverte, d'abord les gendarmes vont assez vite rassurer le papa, Monsieur Bertrand, lui disant « Oh là là, ils ont fait tellement d'erreurs, ou il a fait tellement d'erreurs, l'auteur de ce crime abominable, qu'il a pratiquement signé son crime, on va pouvoir le retrouver assez rapidement. »
Les enquêteurs parviennent d'ailleurs à établir les circonstances de la mort de la jeune femme.
Le corps de Magali a été retrouvé après la calcination avec une espèce de forme cylindrique qui a laissé à penser qu'elle avait pu être brûlée soit dans une baignoire, soit dans un tonneau, ou en tout cas quelque chose de forme cylindrique.
À l'époque, de nombreux indices sont retrouvés à proximité du corps de Magali.
Les gendarmes ont fait des recherches tout aux alentours, chercher des choses, s'ils trouvaient des choses. Et dans ce conteneur qui est là, à poubelle, là, voilà, ils ont retrouvé un bidon d'essence qui, pensent-ils, est celui qui a servi à allumer le feu pour que Magali brûle. Voilà.
L'endroit où Magali a été trouvée n'est certainement pas l'endroit où elle a été brûlée, puisqu'il n'y a strictement aucune trace de calcination à l'endroit où on a retrouvé le corps de Magali.
Afin de mettre la main sur l'assassin, les enquêteurs recherchent alors le lieu où le corps de Magali aurait été brûlé.
Calciner un corps qui fait 80% d'eau, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, donc il faut déjà un endroit tranquille. On peut raisonnablement penser que ça peut être dans un endroit isolé, un entrepôt, un dépôt ou un squat.
Les recherches vont pendant un temps s'orienter vers une maison abandonnée, un squat qui se situe à quelques kilomètres de l'endroit où vivait Magali.
Ici, c'est le lieu où la police a défini que Magali aurait peut-être été brûlée. Quand je suis rentré dans cette maison, j'ai eu des sensations bizarres et puis j'ai peut-être un pressentiment.
Des prélèvements sont alors effectués dans la maison.
Au départ, ils ont donc trouvé soi-disant des graisses qui pensaient être humaines. Et après, dans la cheminée, ils m'ont dit que c'était des graisses de porc. J'ai beaucoup de doutes, je ne sais pas exactement ce que c'est, ce qu'il en est.
Corinne Herman, vous êtes avocate. Dans le cas d'enfants assassinés, les familles sont-elles impliquées dans les enquêtes? On les tient au courant? On les met plutôt à l'écart? Comment ça se passe?
Je dirais qu'habituellement, dans ces drames, les policiers et les magistrats essayent de tenir le plus loin possible la famille. D'abord pour une raison toute simple, c'est qu'elle est souvent la première suspecte des faits, puisqu'on considère qu'à peu près 80% des affaires se passent dans l'environnement de la victime. Donc on va commencer par regarder cet environnement avec un œil un peu suspect, et donc forcément on les tient à distance. Dans un deuxième temps, normalement le magistrat est censé tenir au courant la famille, et ça va passer plutôt par l'avocat qui va lui transmettre les copies de dossier ou tenir son client informé. Mais on a tendance toujours à avoir peur des victimes, et donc à les tenir loin de leur dossier. Et c'est une erreur à mon avis, parce que souvent on constate en discutant avec les victimes, en restant à leur côté, qu'elles ont souvent des éléments de réponse qui nous font avancer plus vite.
Et elles se sentent aussi seules, abandonnées quelque part.
Elles se sentent seules, mais je dirais que c'est plus grave que cela, elles se sentent suspectes. Et c'est extrêmement difficile de vivre cette suspicion quand on est innocent et qu'on a perdu un proche dans des conditions qui sont absolument dramatiques. Donc elles sont doublement victimes. Elles sont victimes de ce décès, de cet assassinat, et elles sont victimes du comportement de la justice et des magistrats ou des enquêteurs, mais qui est nécessaire puisque, effectivement, on a besoin de préserver les indices de l'enquête dans un premier temps.
Et dans ce cas, vous, avocat, vous êtes les médiateurs?
On fait le lien, tout à fait. On fait le lien entre, finalement, les divers intervenants dans la justice et nos clients. Alors après, chaque conseil fait le lien plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Moi, je tiens absolument à associer mes clients à l'enquête parce que souvent, c'est eux qui ont la bonne idée au bon moment.
Éric Bertrand ne comprend pas comment sa fille Magali a pu être si brutalement assassinée. Faute d'informations de la part des forces de l'ordre, il va tenter de mener l'enquête lui-même. Comme chaque année, Le 12 juillet, jour de la découverte du corps de Karine, Annick Cagnier se rend à l'endroit où sa fille a été retrouvée. À ses côtés, Sophie, la cousine de Karine.
On l'a largué là. Il lui manquait une chaussure, il lui manquait son cartable, il lui manquait sa paire de lunettes. À côté d'elle, ils ont trouvé une cafetière. Ben oui, parce qu'elle a été étranglée avec un fil de cafetière électrique et un lien de plastique en nylon, des colis, là, je sais pas quoi, là, dans les cervicales. Elle s'est débattue parce qu'ils avaient retrouvé de la terre dans ses ongles. Mm-hmm. Ils ont trouvé comme ça, donc elle a voulu se défendre. Et puis...
Sur place, Annick Cagnier se souvient du jour où la gendarmerie lui a demandé de venir identifier les objets appartenant à sa fille.
Le gendarme, au bout d'un moment, m'a dit « Écoutez, il y a des objets qu'il faudrait venir vérifier si c'est elle, à elle. » Puis moi, dans ma tête, je me dis « Pourvu que ce soit pas ça, pourvu que ce soit pas ça. » Bah oui, hein, tant qu'on ne sait pas. Bon, ils étaient tous scellés, hein, il y avait ça, il y avait ça. Puis alors, bien sûr, ils ont été nettoyés. Alors, elle me dit « Parce que je n'avais pas le droit de toucher, j'avais le droit de regarder comme ça. » Et tu sais, quand t'es comme ça, on a envie de le prendre. Hein. Et ensuite, bon, ben, j'ai regardé là, j'ai dit que je peux. Ben, j'ai dit non, c'est pas sa bague. Ben, elle dit mais si. Alors c'est là qu'elle l'a porté plus près. Ben, j'ai regardé, enfin, dans l'espoir, mais si c'est elle, parce que c'était marqué mes initiales à Nicalier. Donc voilà, donc c'était bien sa bague.
Bon, va ma grosse. Oh.
Lorsqu'Annick Cagnier repense au jour de la disparition de sa fille, elle ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir.
Elle quittait le bâtiment, elle passait là avec sa copine, elle faisait là pour faire le chemin pour aller au lycée Jean Villard. Tous les jours, je faisais. Je faisais signe à passer, je faisais signe à la fenêtre. Mais là, bon, ben, puis, comme elle fait d'esprit, ce jour-là, je ne l'ai pas fait. Puis peut-être qu'en faisant le coucou, j'aurais pu regarder le chemin qu'elle prenait. Est-ce que entre-temps, du bâtiment de son père, le chemin, est-ce qu'il n'aurait pas rencontré justement quelqu'un ?
Claude Delmos, vous êtes psychanalyste. Est-ce qu'un parent se sent forcément coupable lorsque son enfant est assassiné ?
Un parent se sent quasiment toujours coupable de tout ce qui arrive à son enfant. Évidemment, quand son enfant est assassiné, c'est tellement, mais abominable, c'est un mot faible, hein, c'est tellement impensable que évidemment que la culpabilité est maximum, parce que il y a l'idée de si j'avais été là, si ce jour-là on n'était pas allé au supermarché, je l'avais accompagné pour aller à l'école, si il y aura toujours. Mais il faut aussi comprendre que la culpabilité là, elle a une fonction qui est quand même paradoxale, qui est une fonction de chercher une causalité là où le pire probablement est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, cette jeune fille qu'on va enlever, assassiner alors qu'elle part à l'école, c'est le pur hasard. Elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun lien rationnel qui permette d'expliquer ça. Donc on est au fond plongé, au moins inconsciemment, dans un monde qui n'a plus de sens. Et se dire « c'est ma faute », c'est une façon de remettre une causalité qui fait que le monde a une certaine logique dans le monde. C'est tout à fait abominable, mais ça sert quand même aussi à ça. Et puis, la mort d'un enfant, c'est quelque chose dont Freud qui avait perdu une fille, un petit-fils, disait qu'on ne pouvait pas s'en remettre, mais il a probablement raison. Enfin, c'est le seul deuil qu'on ne peut pas faire, parce que c'est le monde à l'envers. Enfin, voir ses enfants mourir avant soi, qu'est-ce qu'on peut faire de pire ? Et l'assassinat, c'est absolument atroce, parce que évidemment, le parent ne peut que se représenter, et ça accroît sa culpabilité, ce qu'a dû vivre l'enfant avant qu'on ne le tue. Enfin, soit la façon dont il est mort, soit le viol, s'il y a eu viol avant. Enfin, c'est l'abomination des abominations. Hein.
Pour Annick Cagnier, le travail de deuil ne pourra vraiment se faire que lorsque l'on aura retrouvé l'assassin de sa fille. À l'époque, un jeune homme est vite soupçonné. Il s'agit d'un ancien petit ami de l'adolescente. L'oncle d'Annick Cagnier, Louis Ragon, se souvient qu'à l'époque, les enquêteurs avaient été intrigués par un élément bien précis.
Il y avait le coup de la ficelle qui avait servi à étrangler Karine, qui servait pour ficeler les publicités destinées à la distribution. Et lui, avait fait de la distribution, cet individu.
Finalement, faute de preuves, les enquêteurs ne peuvent inculper le jeune homme. Le principal suspect est donc relâché. L'affaire Karine Leroy tombe peu à peu dans l'oubli et l'enquête est au point mort. Mais les conséquences tragiques du drame vont peu à peu se multiplier. Depuis la mort de Magali Parr, son père, Eric, rend régulièrement visite au fermier qui a retrouvé le corps de sa fille. Il veut essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer ce lundi 26 mars 2001.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis Eric, le papa de Magali qui a été...
Ah, d'accord. Comment vas-tu ?
Bien. Voilà. C'est monsieur qui a trouvé Magali. Salut. Tu vas bien ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Ça va ? C'est un matin que je suis parti aux champignons et que j'ai eu la mauvaise surprise de trouver le corps de Magali. Au premier moment, j'ai cru que c'était une branche. J'ai vu que le bras et sa main, en fait. Et après, je suis revenu tout de suite ici. Et il y a le médecin qui était venu voir ma grand-mère. Et c'est là que j'ai dit que j'avais vu un corps. Je pensais que c'était un corps. Et il est venu avec moi constater que c'était vraiment ça.
Ciao. Allez, bye. Merci. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
À l'endroit où le corps de sa fille a été retrouvé, Eric Bertrand ne peut s'empêcher de revivre le scénario du drame.
J'imagine la voiture garée ici. La personne sort, si elle est seule, prendre un corps dans le coffre, un corps inerte, et puis le déposer ici, là, au bord de la route. Avec le pied qui dépassait pratiquement sur la route, comme ça. Je reviens de temps en temps, je fais des recherches le plus possible, essayer de trouver les affaires de Magali, essayer de trouver des indices où elle a pu être brûlée. J'ai pris ce chemin jusqu'en haut, jusqu'une X fois.
Ce pèlerinage, Eric Bertrand en a besoin. Car depuis la mort de sa fille, il se sent délaissé par les autorités.
T'es vraiment mal informé. Je vais pas dire t'es vraiment mal informé. Tu n'es pas informé du tout de tes droits. À ce moment-là, il n'y a rien qui me dit ce que je dois faire. On ne dit pas que t'as le droit de porter partie civile, par exemple. On te dit pas, vous pouvez peut-être voir un psychologue, bon, tu peux y penser toi-même, en même temps. Mais c'est vrai que t'as pas que ça à penser dans ces moments-là. Ni mon ex-épouse, ni mes enfants, bon, mes enfants sont petits, mais ils n'ont aucune aide non plus. On leur propose pas d'aide psychologique, non, leur sœur a été assassinée, mais c'est normal.
Eric Bertrand aurait voulu être informé. Conseiller ou au moins écouter. Désormais, il se sent avant tout révolté.
Quels sont les autres sentiments qui sont impliqués ?
Ça dépend vraiment des gens. La colère est normale. Je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent qu'il faut rétablir la peine de mort pour les assassins d'enfants. Pour autant, je comprends vraiment que des parents aient envie d'assassiner quelqu'un qui a tué leur enfant, parce que c'est une réaction normale. Enfin, comment faire pour le venger ? Dans une société civilisée, on ne se venge pas. Donc, évidemment, je suis contre ça. Mais c'est complètement compréhensible. Il y a la colère, il y a la culpabilité. Ça peut tout à fait, si quelqu'un n'est pas aidé, soit par son entourage, soit par un psy, ça peut donner une forme d'état dépressif où plus rien dans la vie n'a de sens pour lui. Ça peut vraiment donner mille choses.
Mais quand on ne connaît pas le coupable, c'est encore plus violent.
Bah, c'est plus violent parce que l'affaire ne peut pas être close. C'est comme si la tombe ne pouvait pas se refermer. En plus, il y a l'idée quand même que on doit à l'enfant de rechercher qui lui a fait ça et de le faire punir. Donc on est en dette. Et Freud racontait très bien ça, que ce qui perturbe le deuil, la culpabilité est quelque chose qui perturbe le deuil. Donc on est hanté par l'idée de si j'avais fait ci, si j'avais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé. On peut pas laisser le travail de deuil se faire.
En dépit des nombreux indices, l'enquête n'avance pas. pour Éric Bertrand, l'incertitude est insupportable. Il n'a alors plus qu'une seule solution, faire appel aux médias. Nous sommes en 1997. Cela fait 3 ans que Karine Leroy a été assassinée. L'absence de leur fille, le deuil impossible, l'assassin en liberté, autant d'éléments qui rendent cette épreuve insupportable pour ses parents. Et cette année-là, Michel, le père de Karine, décède des suites d'une crise cardiaque. Il n'a que 56 ans.
Michel, moi je pense que oui, ça l'a atteint profondément. Lorsqu'on m'a dit Michel est mort d'une crise cardiaque, je n'ai pas été étonné. Hein.
Quelques mois plus tard, c'est Annick Cagnier qui est, elle, victime d'un accident vasculaire cérébral.
Faire un AVC en 97 aussi. Enfin, à l'hôpital, ils ont dit que de toute manière, on fait souvent des AVC, enfin, normalement, dû à un gros choc. Bon, je ne parlais plus, hein. J'ai vu tout ça de travers, tout ça, j'étais mort, enfin, comme maintenant. À un moment, c'était la jambe, enfin, tout le côté gauche qui avait pris, quoi, ça avait pété là, on va dire, puis c'est tout ce côté-là qui est mort.
Malgré tout, la famille tente de continuer à vivre. Nous sommes le 19 juin 2012. Aujourd'hui, tout le monde s'est réuni pour fêter l'anniversaire de Nathalie, la jumelle de Karine.
Pour trinquer.
Bon, allez, bon anniversaire.
Tu fais rien comme Manu.
Bon anniversaire, les vœux les plus sincères. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères.
38 ans, la vieille.
Ouais.
43 ans.
Et à Karine.
Pour Nathalie, cette date, autrefois symbole de jours heureux, est devenue une épreuve douloureuse. Longtemps, elle a refusé de célébrer son anniversaire.
Il y a des années, elle ne voulait pas. Elle a dit, maman, fais rien. Et je faisais quand même. Elle ne veut pas, parce qu'elle a du chagrin, parce que sa soeur n'est pas là. Mais elle a besoin qu'on s'occupe d'elle.
Comme chaque année, juste après la réception, Annick se rend au cimetière pour se recueillir sur les tombes de Karine et de son ex-mari Michel.
Mon frère Jésus-Christ. Bonjour mon frère. Bonjour ma grosse. Là je mets des fleurs. Là je vais les mettre là. Non peut-être pas, je vais les mettre là. C'est pour toi. Voilà. Alors je vais prier, je lui parle. Tout et rien. Comme si je parlais dans le vide, mais enfin pour moi c'est pas dans le vide. Ouais, ben voilà, je mets des fleurs, j'arrose, comme ça, là, toi. T'arrêtes. Voilà. Là. Là. Voilà. C'est là, arrête. Là. Une fois qu'on l'a, j'ai fini avec Karine, ben, je vais voir son papa, Miloute, comme je dis, Michel Leroy. Son papa, bon, c'était quand même un bon mari, un bon père. Je l'ai laissé mourir. Voilà. Bon, lui, pour lui, c'était une délivrance, peut-être, je ne sais pas. Bon, allez, ma grosse, on va y aller. Hein. Je fais un bisou. Ah, ben oui. Pour vous trois. Allez. Posez-vous bien.
Claude Almos, on vient de le voir, c'est important pour Annick de parler à sa fille décédée. Est-ce que ces rites sont indispensables pour supporter l'absence ?
Je crois que vraiment, c'est des situations où chacun invente ce qu'il peut pour survivre. Et moi, je ne me permettrai pas ni de dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est utile. Je crois que si on peut faire quelque chose d'ailleurs pour aider quelqu'un, c'est l'aider à inventer quelque chose qui va l'aider, sinon à aller bien, du moins à aller moins mal. Alors bien sûr, on peut dire que lui parler, c'est une façon de faire qu'elle soit encore là. Mais si ça permet à cette femme de survivre, qui va aller dire que c'est pas bien? Je pense que des gens trouvent d'autres solutions. Encore une fois, par exemple, on va créer des fondations, on va faire quelque chose pour aider d'autres enfants. Pour d'autres personnes, c'est ça. C'est vrai que ce qui paraît terrible dans cette histoire, c'est que cette femme vit au présent éternel de la mort de son enfant. Mais bon, elle survit.
Il est compliqué à trouver l'équilibre entre faire son deuil et garder l'enfant en tête.
Alors, travail de deuil, c'est un mot qu'on met aujourd'hui vraiment à toutes les sauces et pour n'importe quoi. Bon, ça veut, la souffrance, elle s'en va jamais. Elle se transforme jusqu'à ne plus empêcher totalement de vivre. C'est le principe de la cicatrice. Si vous voulez, vous recevez un coup de couteau, bon, ça ne saigne plus au bout d'un certain temps. Ensuite, ça va se refermer, il va y avoir une très grosse cicatrice. Et puis, peu à peu, la cicatrice va changer de forme, mais la cicatrice, elle va rester. Donc, de toute façon, quiconque a perdu son enfant, et encore plus quiconque a vu son enfant assassiné, martyrisé, c'est une marque ineffaçable. Il ne sera plus jamais le même après. Mais il y a cette idée que si le coupable est puni, ça remet quand même le monde sur ses pieds.
Les mois et les années passent, et le meurtrier de Magali n'a toujours pas été retrouvé. D'abord confiant dans le travail des enquêteurs, Éric Bertrand finit par se rendre compte que l'assassin de sa fille risque de n'être jamais retrouvé.
Au bout d'un moment, je m'aperçois que cette enquête, elle part en sucette, qu'on m'a dit n'importe quoi, et j'ai envie peut-être que les médias en parlent pour pas que ce crime soit oublié.
Désespéré, il veut médiatiser l'affaire de sa fille. Les médias français s'intéressent peu à l'affaire Magali Parr. Alors Éric Bertrand décide de se tourner vers la télévision suisse.
D'une voix éteinte, en peu de mots, il nous a dit que sa fille a été tuée dans des circonstances atroces.
En 2003, il participe à cette émission qui sera entièrement consacrée à la disparition de sa fille. Malheureusement, elle ne permettra pas d'apporter d'éléments nouveaux. Céline, la cousine de Magali, apporte aussi son soutien à Éric. Grâce à Internet, elle fait tout pour que le meurtre de la jeune fille ne tombe pas dans l'oubli.
Je voulais qu'un maximum de gens soient au courant de ce qui s'était passé pour Magali, de notre histoire, de son histoire. Et de là, Éric il m'a dit, mais oui, on va faire une page pour Magali.
On y trouve des photos que les gens mettent, on y trouve quelques photos de Magali que j'ai mis moi, en créant le site. Tous les jours, je suis dessus. Tous les soirs, quand je rentre du travail, je suis sur la page Facebook. Je suis certain que l'assassin, il est aussi sur cette page. Je suis certain.
Aujourd'hui, Éric Bertrand est hanté par le meurtre de sa fille. Il se recueille régulièrement sur la tombe de Magali.
Voilà, l'entrée du cimetière où Magali est maintenant. Et pour toujours.
Dans l'espoir que malgré tout l'enquête aboutisse un jour, il a fait le choix de ne pas sceller la tombe de sa fille.
Je ne veux pas fermer complètement parce que on ne sait jamais, des fois, qu'il y ait encore des prélèvements à faire ou si des fois des ADN seraient plus performants puis qu'ils en aient encore besoin. On ne sait jamais. Tant que l'enquête n'est pas résolue, je vais laisser la tombe comme ça pour l'instant.
Qui a tué Magali? Tant qu'aucune réponse ne sera apportée, pour les proches de la jeune femme, il sera impossible de faire le deuil.
Même là, maintenant, 11 ans après, le deuil, on ne l'a pas fait. Tant que tu ne mettras pas un nom sur qui a fait ça, tu ne peux pas faire ton travail de deuil. Ça ronge, c'est ça le terme exact, ça te ronge.
Ce que redoutent beaucoup ces familles, c'est la clôture de l'affaire. C'est comme une deuxième mort de leurs enfants. Pourquoi est-ce qu'on clôture les dossiers au bout d'un moment ?
Alors on clôture historiquement parce qu'on a instauré cette notion de prescription, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans après les faits ou de 10 ans après le dernier acte, on va clore le dossier. Et finalement c'est historique puisque faut dire que dans les siècles passés, les personnes décédaient plus vite et donc les témoignages et les preuves se disparaissaient plus vite. Aujourd'hui avec la police technique, aujourd'hui avec les enregistrements, c'est incroyable de garder cette notion de prescription.
Et je depuis 10 ans, c'est rien.
10 ans, c'est rien, et surtout, je dirais que c'est l'alibi de la justice, pour pas continuer à chercher. Et moi, je suis très en colère contre la prescription, mais finalement, on peut la contourner, cette notion de prescription, et je suis doublement en colère contre, les magistrats et les enquêteurs qui, finalement, acceptent de fermer un dossier au bout de 2 ans, ça arrive encore aujourd'hui, au bout de 2 ans, on dit, bon, on n'a rien trouvé, donc on va arrêter de chercher. C'est leur devoir, c'est leur responsabilité, et je pense qu'il faut engager la responsabilité de l'État lorsqu'elle rend un non-lieu dans des dossiers de crimes de sang. Je pense que la justice ne devrait jamais rendre de non-lieu, c'est, la responsabilité des magistrats magistrats et les enquêteurs de continuer à chercher. J'ai envie de dire aux victimes, c'est à vous de prendre votre histoire en main. Il ne faut pas faire confiance à la justice, il ne faut pas faire confiance aux enquêteurs. Il faut continuer à être là, présent, un petit peu comme le poil à gratter de cette justice, en disant « mais j'ai droit à une réponse, j'ai droit de savoir, vous devez continuer à chercher ».
Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous conseillez à vos clients de faire appel aux médias pour lancer un dossier, pour éviter la clôture ?
Je dirais que c'est toujours douloureux de s'exposer dans sa souffrance, mais c'est vrai que les médias vont permettre de faire remonter des indices, vont permettre de faire remonter des témoignages qui vont empêcher le juge de rendre ce non-lieu. Et donc oui, parfois, dans des dossiers où on n'a vraiment rien, on leur conseille de le faire et on s'associe avec eux.
12 ans après l'assassinat de Magali Part, la famille a le sentiment que la justice les a abandonnés. Ils ne pourront trouver la paix que le jour où le meurtrier sera arrêté. Cela fait maintenant 18 ans que Karine est partie. Aujourd'hui, sa maman, Annick Cagnier, vit à travers ses souvenirs. Pour l'aider à surmonter sa douleur de mère, elle s'est créée une sorte de mausolée qui lui permet d'entretenir le souvenir de sa fille.
Là, c'est comme si c'était au-dessus de l'armoire, c'était mon petit cimetière à moi.
Dans cette pièce, Annick aime être seule et parler à sa fille comme si elle était encore en vie.
Je prends mes chaussures et puis je fais comme ça. Bon, tu me manques, c'est vrai, ça fait 18 ans, tu es partie, tu as quitté la terre, tu es partie au paradis avec papa du ciel, comme je dis toujours. Mais la meilleure vue, t'inquiète pas, c'est là-haut. Hein.
Dans cet univers, les objets associés aux souvenirs côtoient les gestes symboliques.
Marine, Nathalie, Marine, Anthony, puis maintenant il y a les petites sœurs, donc Tessa et Tendresse. Voilà. 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 Pour moi, c'est comme si ça représentait mes enfants. Voilà. Tous les matins, hein, quand je me change, quoi que ce soit, eh bien, je prends la photo à Karine, qui fait un bisou. Voilà. Voilà. Puis je dis bon, ben, à tout à l'heure. Voilà, je remets ça, comme ça.
Pour Annick Cagnier, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté ce jour funeste du 9 juin 1994.
Que c'est un calendrier que j'ai gardé parce que c'était 1994, c'est-à-dire que c'est l'année de décès à Karine, hein, on va dire encore ça, Karine. Et puis donc actuellement, ben, pour moi, j'ai besoin de le voir parce que bon, ben, en voyant la date, ben, je pense à ma fille, bien sûr. Alors puis, j'avais marqué que donc, le 12 était retrouvé assassiné, donc. Appris par le 13 par les gendarmes. Là, l'enterrement, donc ça a été fait le 23.
18 ans après la disparition de Karine Leroy, son assassin n'a jamais été arrêté. Et il semble peu probable qu'on le retrouve un jour. Un sentiment d'injustice pour cette mère condamnée à jamais à pleurer son enfant.
Ma vie est finie depuis le 9 juin 1994. Je ne suis pas là. Je suis là sans être là. On dit que maintenant je suis deux. Voilà. On va dire Karine, Nathalie. Mais des fois, je dis, mais est-ce que les parents, dans ma situation, sont pareils? Je sais pas. Comment ils ont des réactions? Eux, peut-être qu'ils arrivent à continuer à vivre, peut-être. Ben, je leur souhaite, hein. Mais moi, j'y arrive pas.
En attendant qu'un jour on retrouve l'assassin de Magali, Éric Bertrand continue de vivre pour ses autres enfants. Un précieux soutien qui lui permet de ne pas perdre espoir.
Tu peux pas t'imaginer que ton enfant puisse mourir avant toi. Chaque jour de ta vie, tu te dis, mais pourquoi ? T'as pas de réponse. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne puisse faire une telle horreur? Je n'ai pas de réponse.
Annick Cagnier, Éric Bertrand. Deux destins d'une mère et d'un père brisés à jamais. Unis dans un même combat, que l'assassin de leur enfant soit retrouvé et jugé. Ils pourront alors peut-être essayer de tourner la page.
Je suis sûr que jusqu'au bout de ma vie, je chercherai à savoir qui il est et pourquoi il a fait ça.